Frères et sœurs, je suis très reconnaissant de l'honneur et de l'amitié que vous me témoignez en m'invitant pour ce rassemblement aujourd'hui. Je suis heureux d'avoir à vous porter la parole du Seigneur et de bénéficier de ces moments de communion fraternelle qui sont roboratifs pour nous tous, pour moi aussi. Je vous porte aussi les salutations de la faculté de théologie évangélique. Je suis un retraité depuis bien des années officiellement, mais de fait j'y vais encore, j'y enseigne encore un peu, et le doyen actuel, le professeur Buchold, m'a chargé de salutations pour notre rassemblement aujourd'hui. Donc je m'acquitte de cette charge très agréable, je vous salue au nom de cette faculté, où nous nous rappelons encore du ministère béni dans cette institution de notre frère et de notre sœur Edmond et Esther Buchold.
Juste une petite annonce qu'on vient de me dire. Les enfants, vous êtes priés, si vous voulez bien, passez dans la pièce à côté, il y a une histoire, il y a plein de choses qui sont prévues pour vous.
Je vous invite à écouter maintenant la parole de Dieu. Nous lisons tout d'abord, simplement deux versets dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Zacharie. Je lirai au chapitre 12, le verset 10, et encore le premier verset du chapitre 13, avant de lire le passage dans le Nouveau Testament que nous méditerons plus particulièrement ce matin. Et donc d'abord, Zacharie, chapitre 12, verset 10. Je répandrai alors sur la famille de David et sur ceux qui habitent Jérusalem un esprit de pitié et de supplication. Alors ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils auront transpercé. Ils porteront le deuil comme le deuil qu'on porte pour un enfant unique. Ils pleureront sur lui tout comme on pleure amèrement pour un fils premier-né. Et encore, donc le verset premier du chapitre 13. « En ce jour-là, jaillira une source pour purifier de leurs péchés, de leurs impuretés, la famille de David et tous ceux qui habitent Jérusalem. » Puis dans le Nouveau Testament, nous lisons au chapitre 7 de l'Évangile selon Jean, un court passage, les versets 37 à 39. Évangile selon Jean, chapitre 7, verset 37. Le dernier jour de la fête, il s'agit de la fête des tabernacles ou des cabanes, comme on peut traduire aussi, qui se tenait à l'automne, la dernière des grandes fêtes que la loi de Moïse avait instituée. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Jusqu'ici, notre lecture. Nous sommes libres à l'égard du calendrier liturgique traditionnel. Nous n'avons plus à respecter les jours, les mois, les temps, les années, ce qui était une sorte d'assujettissement aux éléments du monde. Ainsi nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4. Et si c'est aujourd'hui la Pentecôte, dans le calendrier de la tradition, j'aurais donc parfaitement le droit de vous adresser un message de Noël, ou de vous parler du retour du Seigneur, comme dans le petit livre qui est issu de présentation pour l'ensemble de l'Église du Tabernacle, il y a quelques années. J'aurais donc parfaitement le droit, alors bien sûr, je ferais peut-être froncer les sourcils au président Kosicki. Hein. J'ai quand même eu un petit briefing avant de me préparer. Mais si nous sommes libres de ne pas suivre la coutume, ben nous sommes libres aussi de la suivre, si nous sommes ainsi conduits. Et je crois que je ne fais pas mal de concentrer notre pensée aujourd'hui, et en particulier ce matin, mais cet après-midi, il y aura prolongement, sur ce qui s'est passé lors de la première Pentecôte chrétienne. Il y a, j'ai calculé, 1979 ans, puisque c'est sans doute en l'an 33 de notre ère que la chose s'est produite. Quelque chose de nouveau a eu lieu en ce temps-là. La Pentecôte, vous le savez, c'est 50 jours après Pâques. Le mot vient du nombre 50, et on l'appelait aussi la fête des semaines, parce que c'est 7 semaines après la Pâque que les Israélites devaient célébrer cette seconde grande fête de leur calendrier. Au moment de la fête de Pâques, le jour qui suivait le sabbat, comprise dans la célébration de la fête de Pâques, on présentait au Seigneur les prémices, une gerbe du blé nouveau lui était offerte comme un symbole du sens qu'on avait de la dépendance à l'égard de sa bénédiction. Pour tous les aspects de la vie, une gerbe était présentée, les prémices, le premier jour de la semaine après la Pâque. Et 50 jours plus tard, alors, la moisson commençait à battre son plein. C'était la fête de la moisson. En l'an 33, le premier jour de la semaine qui a suivi le sabbat, Jésus, notre Seigneur, le grain de blé, tombé en terre afin de porter beaucoup de fruits, est ressuscité comme les prémices. Et 50 jours plus tard, à la Pentecôte, commençait la moisson mondiale. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Mais avec quel événement particulier pour le marquer? On dit habituellement l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été répandu, selon la prophétie du prophète Joël en particulier. C'est cela qui, semble-t-il, d'après les expressions bibliques, a constitué la nouveauté de ce jour de la fête des semaines en l'an 33, 50 jours après la résurrection de Jésus. L'une des expressions les plus fortes pour exprimer cette nouveauté se trouve dans l'annonce que Jésus en avait faite, dans le passage que nous avons lu. Au verset 39 du chapitre 7 de Jean, il nous est dit que l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié, n'était pas encore entré dans sa gloire. Dans la Bible du Semeur que j'ai lue, on a rajouté le mot « n'était pas encore donné ». Il se trouve bien dans un manuscrit ancien, mais un seul parmi tous les autres, donc c'est probablement un scribe qui a considéré que la chose était sous-entendue et qui a rajouté le mot « donné » parce que l'expression « l'Esprit n'était pas encore » est surprenante. Elle marque avec une grande force que quelque chose de nouveau s'est produit le jour de la première Pentecôte chrétienne. Mais, alors quoi plus particulièrement? Comment allons-nous pouvoir élucider ce qu'il en est de la nouveauté de l'Esprit le jour de la Pentecôte? Il faut commencer par dissiper tout malentendu éventuel. Il est surabondamment clair dans toute l'Écriture que l'évangéliste, commentant les paroles de Jésus au chapitre 7 de son évangile, n'a pas voulu dire que l'Esprit a commencé d'exister après la croix, la résurrection et l'ascension de Jésus. C'est cet ensemble que l'évangile de Jean appelle sa glorification. Jésus a été élevé de la terre sur la croix, mais c'était la gloire même de son amour qui commençait à se révéler. Il a été glorifié en triomphant de la mort. Il a été glorifié en étant élevé à la droite du Père. C'est tout cela, sa glorification. Mais l'Esprit n'a pas attendu pour exister que ces événements clés se soient produits. L'Esprit est appelé l'Esprit éternel dans l'Épître aux Hébreux. L'Esprit est Dieu, le Dieu béni éternellement lui-même. De nombreux passages nous montrent que la présence de l'Esprit, c'est la présence de Dieu. Donc, pas question d'imaginer que la formule voudrait dire que l'Esprit n'existait pas. Mais elle ne veut même pas dire qu'il n'était pas actif, qu'il était en quelque sorte comme retiré au ciel sans intervenir sur la scène terrestre. Des passages très nombreux nous montrent le contraire. C'est l'Esprit d'abord qui a été actif dans la création du monde. La chose nous est suggérée au deuxième verset de la Bible. L'Esprit planait à la surface des eaux. C'est l'indication qu'il allait jouer un rôle décisif dans l'œuvre créatrice racontée par la suite. Et je pense que c'est une bonne hypothèse pour expliquer le « nous » de Dieu un peu plus tard, toujours au chapitre 1er de la Genèse, quand il dit « créons l'homme à notre image », que de penser qu'il parle à son esprit. Le Père parle à l'esprit. Et l'esprit a été actif dans la création, et le psaume 33 le précise. C'est par la parole de Dieu et par le souffle ou l'esprit, parce que c'est le même mot, de sa bouche, que les cieux et la terre ont été créés. Donc il a été actif dans cette création, il est actif dans la préservation. Le psaume 104 nous dit que si Dieu enlevait son esprit, tout s'évanouirait dans le néant. Et l'esprit a été très actif dans l'histoire de la grâce de Dieu tout au long de l'Ancien Testament. Nous voyons l'esprit qui repose sur Moïse, l'esprit qui, parce que la tâche était trop lourde pour Moïse, est aussi accordé à 70 anciens dans le camp d'Israël, comme le chapitre 11 du livre des Nombres nous le rappelle. C'est un incident qu'on pourrait presque trouver amusant, parce qu'il y avait deux des anciens qui, s'il y avait eu un embouteillage, n'étaient pas présents au rendez-vous. Et pourtant, Dieu leur a accordé son esprit, ils se sont mis à prophétiser là où ils se trouvaient. Alors Josué, qui aimait le bon ordre, puis qui voulait que l'honneur de son maître Moïse soit pleinement évident, n'était pas très content. Comment ces deux-là, ils n'étaient pas là, devant Moïse, pour recevoir à leur tour l'esprit, et ils le reçoivent. Et Moïse, alors, de répondre, puisse toute l'assemblée de l'Éternel être composée de prophètes. Vous vous rappelez ce passage. Donc, l'esprit était là, l'esprit à l'évidence. Il est question de l'esprit pour d'autres prophètes aussi. Au chapitre 9 du livre d'Osée, le prophète est appelé l'homme de l'esprit. Nous voyons l'esprit qui joue un rôle important dans le ministère d'Ézéchiel. Nous avons le rôle de l'esprit qui fait une irruption assez sensationnelle dans le cas des juges. Vous vous rappelez, dans le livre des juges. Et là, il y a un petit détail aussi intéressant. Il nous est dit que l'esprit revêtit tel ou tel juge. Et en hébreu comme en français, le verbe revêtir peut avoir deux sens. Ça peut vouloir dire l'esprit a revêtu Samson, par exemple, comme si Samson c'était son manteau, comme on revêt son manteau, ou ça peut vouloir dire au contraire, l'esprit s'est constitué comme le manteau pour couvrir Samson et lui donner toute l'énergie dont il avait besoin. C'est ce double sens qui est possible. Les exégètes peuvent hésiter à ce propos. Moi, je pense quand même que c'est le deuxième sens qui est le plus probable, surtout à cause de l'expression qu'on trouve quand Jésus promet, précisément, sous une autre forme encore, la venue de l'Esprit à la Pentecôte, lorsqu'il dit que vous serez revêtus de la puissance d'en haut, Luc 24, 49, à ses disciples. Là, il est clair que l'Esprit est comme le manteau de puissance qui leur est accordé. Donc je pense que c'est plutôt cette compréhension. Mais vous voyez, il est question de l'esprit là très très souvent. Il ne semble pas fondé de réduire, comme beaucoup ont cru devoir le faire, cette action de l'Esprit dans l'Ancien Testament a un revêtement purement extérieur à une action qui ne changeait pas la personne elle-même. L'usage des prépositions « dans » ou « sur », vous savez, n'est pas un usage qui les sépare clairement dans les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il n'y a jamais l'accent sur « avant, c'était juste « sur » et puis après ça, c'est « dans ». Non, les deux expressions se retrouvent. L'expression « remplir de l'Esprit » est employée quelquefois dans l'Ancien Testament. Il est question pour Daniel, comme pour Joseph, déjà dans la Genèse, de l'Esprit de Dieu qui le remplissait. Il est plein de cet Esprit. Alors certes, chaque fois ce sont des rois païens qui utilisent la formule, mais ces rois païens sont conduits par Dieu à reconnaître la vérité. Ils sont cités comme tels. C'est un triomphe avec lequel Dieu se glorifie. Il est question de Bezaleel, que Dieu avait rempli d'un esprit qui le rendait capable de faire tous les travaux qu'il a fait. Il est question de Josué, rempli de l'esprit de sagesse, après que Moïse lui avait imposé les mains. Donc, l'expression « rempli d'eux » est employée aussi dans l'Ancien Testament, à diverses reprises, à propos de l'esprit. Le prophète Michée dit « Je suis rempli de force », chapitre 3, « avec l'esprit de l'Éternel ». La vieille seconde traduisait simplement « Je suis rempli de force et de l'Esprit de l'Éternel ». D'autres traduisent « grâce à l'Esprit de l'Éternel », mais je pense que le « avec » souligne quand même une certaine intériorité de l'Esprit dans le cas du prophète Michée. Donc il me semblerait vraiment assez imprudent de dire « voilà, il y avait une différence très, très nette à cet égard entre l'Ancien et le Nouveau Testament, enfin la situation d'après la Pentecôte. Il n'est pas non plus fondé, me semble-t-il, d'exclure une œuvre de transformation intérieure de l'Esprit sous l'Ancien Testament, comme certains ont cru devoir le faire. Dans le psaume 51, le psaume de confession de David, après son horrible péché, adultère, crime, assassinat du mari qui était trop gênant, parce que la femme était enceinte. Après, donc, cet horrible péché de David, lorsqu'il se présente au Seigneur, qu'il prie cette prière d'humiliation et de repentance qui est la sienne, il prie le Seigneur de créer en lui un cœur pur, de renouveler en lui un esprit bien disposé, de ne pas enlever son esprit saint. Il ne parle pas là spécialement en roi. Il n'y a aucune allusion très précise à l'office royal dans ce psaume. C'est vraiment sa relation personnelle avec Dieu qui est en cause. Et il est bien question là d'un changement intérieur. Et pour parfaire la démonstration, j'avais encore besoin de vous convaincre, pour vous montrer que l'esprit était actif et profondément actif dans la vie humaine avant la Pentecôte, il y aurait tout ce qu'il faudrait dire du ministère de l'Esprit pendant les 3 années des jours de la chair de Jésus. J'entends l'expression de l'Épître aux Hébreux. Les 3 années de ministère sur les routes de Galilée ou de Judée et de Samarie entre les deux. C'est l'Esprit qui est descendu sous forme visible sur Jésus pour son ministère, alors qu'il était déjà rempli de l'Esprit depuis le sein de sa mère, bien sûr, au Jourdain. C'est par l'Esprit qu'il a chassé les démons, qu'il a opéré ses prodiges. Il le dit lui-même, « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je le fais, alors le royaume de Dieu vous a atteint. » Donc, l'Esprit de Dieu est actif. Il n'y avait pas à attendre la Pentecôte pour cela. Alors, qu'est-ce qui a été nouveau à la Pentecôte? Que nous indique notre texte à ce propos? Je crois que la réponse, peut-être principale, en tout cas celle qui ressort le plus visiblement de notre passage, c'est que l'Esprit est maintenant accordé en abondance des fleuves d'eau vive. Ce n'est pas un petit don de l'Esprit, cette image des fleuves, on peut penser à des cataractes qui se déversent. Cette image-là est typique de ce que la Nouvelle Alliance nous accorde quant à la dispensation de l'Esprit. Ce n'est pas de manière chiche ou de manière restreinte que l'Esprit est accordé, mais au maximum. Nous pouvons recourir à toute la richesse du don. Cela, c'est ce qui ressort d'emblée de l'expression de Jésus. L'Esprit est accordé maintenant d'une manière beaucoup plus libre et large qu'auparavant, qu'avant la Pentecôte. Et c'est ce qui correspond aussi aux promesses de l'Ancien Testament. Car de l'Esprit, il est souvent question quant à son activité de l'époque que j'ai évoquée. Mais lorsqu'il est question d'une manifestation majeure, c'est au futur que l'Ancien Testament en parle. Tout spécialement dans la prophétie de Joël, dont Pierre, qui a été rappelé tout à l'heure, et dont Pierre dit qu'elle s'accomplit le jour de la Pentecôte, mais aussi dans d'autres passages qui utilisent précisément l'image de la source, des eaux qui s'écoulent, des eaux vives. C'est avec une perspective future par rapport à l'Ancien Testament. Et l'œuvre de régénération, de transformation intérieure, est aussi généralement présentée au futur. Je circoncirai ton cœur et le cœur de ta postérité. C'est une des expressions pour la transformation intérieure. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous, au futur, constamment. Je crois qu'on peut dire que l'œuvre de l'Esprit, pour la transformation, pour l'énergisation de la vie chrétienne, de la vie en communion avec Dieu, appartient comme tel à la Nouvelle Alliance. Ça se passait déjà sous l'Ancienne Alliance, mais à titre d'anticipation. C'était par avance. Et c'est pour ça que c'était beaucoup moins libre et large. C'est une bénédiction qui, en quelque sorte, par sa définition, est une bénédiction de la Nouvelle Alliance. Si les croyants de l'Ancienne Alliance, qui d'avance espéraient en Christ, en ont déjà goûté, c'était une mesure, en quelque sorte, préparatoire, d'anticipation. Exactement comme pour le pardon des péchés, d'ailleurs. Le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas enlever les péchés. Si leurs péchés ont été enlevés, s'ils ont été justifiés par la foi, comme l'apôtre Paul le montre très clairement dans l'Épître aux Romains, c'était par avance. C'était à cause de l'œuvre de Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance. C'était une bénédiction de Nouvelle Alliance qu'ils goûtaient, en quelque sorte, par anticipation. Alors on comprend quand on voit ce schéma, qui est, je crois, le schéma que nous enseigne la Bible, que à partir du moment où l'événement d'ouverture de la Nouvelle Alliance a eu lieu, l'accès à la bénédiction de l'Esprit soit plus large, qu'il puisse se comparer au cours de fleuves d'eau vive. Et il y a un aspect qui permet de préciser encore les choses, me semble-t-il. Ceux qui, d'avance, goûtaient la bénédiction de la Nouvelle Alliance par la foi, le pardon des péchés, le changement de cœur, au temps d'Abraham, au temps de Moïse, de David, d'Ésaïe, le faisaient en quelque sorte à titre individuel. Le peuple dans sa masse, ils étaient comme là, noyés dans la masse du peuple, lui n'en bénéficiait pas forcément. Le peuple dans sa masse, le peuple court-raide, à la nuque indocile, ce peuple sur lequel les prophètes ont dû user de tant de sévérité, le peuple dans sa masse n'en bénéficiait pas, mais c'était des individus qui constituaient le reste fidèle qui en bénéficiaient, et en quelque sorte par avance. Ils étaient d'avance ceux qui saluaient l'œuvre à venir de Dieu par Jésus-Christ et l'effusion de son esprit. Et du coup, ils n'étaient pas liés les uns aux autres, en tout cas pas de manière très, très serrée et visible. C'est à titre individuel. Et la nouveauté de la Nouvelle Alliance, c'est que cette situation cesse, que désormais le peuple de Dieu est entièrement composé de justes, justifiés, que tous le connaissent, depuis le petit jusqu'au plus grand, qui constitue vraiment l'Israël de Dieu. Vous voyez, c'est ça la nouveauté. Au lieu d'être au bénéfice de cette bénédiction par avance et à titre individuel, c'est maintenant tous ensemble, en constituant un seul et même corps, que les croyants en bénéficient. Le grand théologien, qui a d'ailleurs été premier ministre de son pays, Abraham Kuyper, il y a un peu plus d'un siècle, a une image que je trouve très très pertinente. Il disait, sous l'ancienne alliance, en quelque sorte, chaque croyant buvait de l'esprit individuellement. Il avait son petit gobelet. Et sous la nouvelle alliance, c'est tous ensemble, venant tous ensemble au fleuve d'eau vive, que nous nous désaltérons de l'eau vive de l'esprit. Et cela me semble confirmé par le verset de la première épître aux Corinthiens, que vous connaissez bien, au chapitre 12, c'est le verset 13, qui nous dit que nous avons tous été baptisés, c'est-à-dire plongés, baignés, dans un seul esprit, cette image des fleuves. Nous avons tous été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps. La constitution en un seul corps, c'est l'élément nouveau qui commence à la Pentecôte, grâce à ces fleuves d'eau vive qui commencent à déferler, qui nous abreuvent, qui nous baignent, baptême de l'Esprit Saint. Donc c'est, me semble-t-il, ce que l'on peut désigner comme la nouveauté précise. Mais pourquoi a-t-il fallu attendre ce plus si longtemps, parce que ça fait quand même un certain nombre de siècles? Pourquoi a-t-il fallu que Jésus-Christ soit glorifié d'abord, avant que l'Esprit soit répandu de cette façon? Je crois que le texte l'indique très clairement. L'Esprit est donné par le Christ glorifié. L'Esprit vient de lui, c'est son Esprit qui peut nous être donné parce que l'œuvre de Jésus-Christ pour laquelle il est venu dans le monde est accomplie. L'Esprit, comme un peu plus loin dans l'évangile de Jean, Jésus le dit encore, prend de ce qui est au Christ, il prend de ce qui est à moi, dit Jésus, et il vous le communique par le moyen de la parole, il vous l'annonce, il le communique, les biens du Christ deviennent nôtres, mais c'est du Christ que l'Esprit prend pour nous l'appliquer. Il fallait qu'il y ait d'abord cette œuvre du Christ pour que l'Esprit puisse nous être donné. Est-ce que nous pouvons le comprendre? Je crois que la raison théologique est la suivante. Tant que la question du péché, de la culpabilité, et donc des exigences de la justice de Dieu, est là entre Dieu et nous, Dieu ne peut pas, il ne peut pas pour, par fidélité à lui-même, parce qu'il est le Dieu saint, parce qu'il est le Dieu juste, il ne peut pas nous donner son esprit. Nous sommes ennemis. Les humains qui sont sous leur péché sont ennemis, c'est l'expression qu'emploie la Bible. Et Dieu, donc, dit, vos péchés constituent une séparation entre vous et moi. C'est ce qu'il dit au début du chapitre 59 d'Ésaïe. C'est pas ma main qui est trop courte, j'ai le bras assez long, j'ai toute la puissance. Mais ce sont vos péchés qui font séparation. Avant que l'Esprit puisse être donné, il fallait que la question du péché fût réglée, que le péché soit expié, que la culpabilité soit effacée, qu'il n'y ait plus aucune condamnation, alors l'Esprit de vie pouvait être donné. C'est ce qui nous explique l'ordre. Il fallait d'abord que le Christ fût glorifié, ce qui correspond à son œuvre de triomphe du péché, contre le péché. Il fallait qu'il expie et qu'il se dresse comme le prince de la vie pour les siens, avant qu'il envoie l'Esprit Saint qui avait été promis. Et pour ceux qui étaient avant, c'est par avance alors, parce que Dieu savait bien qu'il allait le faire, c'est par avance. Mais dans l'ordre des réalités spirituelles, ce qui doit être premier, c'est le règlement de la question du péché, c'est la croix, avec son effet de résurrection, et le don de l'Esprit en procède. Et cela, sans doute, nous est dit dans les mots mêmes que Jésus emploie au verset 37 et 38 de notre passage. Et cela apparaît clairement dans la traduction que j'ai utilisée, qui est celle de la Bible du Semeur. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. » Cette façon de lire, vous le savez sans doute, n'est pas celle de toutes les versions de la Bible. En fait, c'est une question de ponctuation. Les manuscrits les plus anciens n'ont pas aucune ponctuation. Et donc, il faut s'y retrouver, selon le sens. Et parmi les pères de l'Église, dans les premiers siècles, il y a eu deux façons de ponctuer le texte. L'expression « celui qui croit en moi » a été rattachée soit au verset 37, pour la construction, soit au verset 38. Les versions de la tradition second, y compris la nouvelle Bible second d'ailleurs, choisit de rattacher l'expression « celui qui croit en moi » à ce qui suit au verset 38. Et le point est mis après qu'il boive. Donc, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Point. Fin du verset 37. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Vous voyez ? Ça, c'est la ponctuation que vous trouvez dans beaucoup des Bibles les plus anciennes, et encore dans la tradition second la plus récente. Et elle correspond à la division des versets qui n'a pas été faite au temps du Nouveau Testament, mais bien longtemps après. Et c'est sans doute pour ça que, à cause de la division des versets, beaucoup de gens ont choisi de ponctuer de cette façon. Mais il y a une autre façon de ponctuer, qui est la suivante. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, des fleuves vives aillent en son sein. Vous voyez ? La différence, c'est que les fleuves d'eau vive, si on adopte la première ponctuation dans l'ordre où je les expose, les fleuves d'eau vive jaillissent du croyant, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jaillissent en son sein. Alors que si c'est la ponctuation, celui qui croit en moi, qu'il vienne, et qu'il boive, celui qui croit en moi, alors les fleuves d'eau vive jaillissent du Christ. Côté du Christ. Et le croyant est en situation de venir à lui pour boire. Vous voyez la différence que cela fait. J'ai vérifié j'ai pris les index des 24 volumes des écrits des pères de l'Église avant le Concile de Nicée, 325, pour vérifier, et j'ai vu que plusieurs d'entre eux adoptent cette ponctuation que la Bible du Semeur a retenue, qui est aussi celle de la Bible de Jérusalem, de la traduction écuménique de la Bible aujourd'hui et d'autres. Et je crois que c'est la meilleure. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai choisi de lire dans la Bible du Semeur aujourd'hui. Je crois qu'il vaut mieux en effet rattacher les mots « celui qui croit en moi » au verset qui précède, « qu'il boit celui qui croit en moi », en comprenant que les fleuves d'eau vive jaillissent du Christ. Alors, quels sont les arguments en faveur de cette ponctuation-là? Oui, je vous entraîne sur un terrain un peu technique, mais je crois que vous suivez bien, pas de problème. Premier argument, c'est la seule façon de rendre compte de la référence à l'Ancien Testament qui est tout de suite mentionnée ensuite. Comme le dit l'Écriture, des fleuves vivent jailliront de son sein, de son ventre même, littéralement, de lui. Où est-ce que c'est dans l'Ancien Testament, comme le dit l'Écriture? Dans ces mots même, aucun passage, de toute façon, aucun. Mais si on comprend que des fleuves d'eau vive doivent jaillir du sein du croyant, alors on ne voit aucun passage du tout, même indépendamment de la formulation exacte, on ne voit aucun passage. Il y a bien le passage chez Ésaïe où il y a la promesse d'être comme un jardin bien arrosé, mais c'est quand même très différent. Ce n'est pas des fleuves d'eau vive qui jaillissent du croyant pour s'épandre vers l'extérieur. Donc, aucun passage de l'Ancien Testament ne semble correspondre à l'idée qu'il y a des fleuves d'eau vive qui jailliront du croyant. Aucun. En revanche, si c'est du Christ, alors là, il y a plusieurs passages. Ce n'est pas les mots exacts, mais c'est bien la pensée. Le Christ, c'est le vrai temple. Il est présenté comme ça dans l'Évangile de Jean. « Détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours », dit Jésus. Il parlait du temple, de son corps, car il est, lui, le vrai temple. Or, vision d'Ézéchiel, du temple à venir, des fleuves d'eau vive couleront un jour, miraculeusement. Au chapitre 47 d'Ézéchiel, il voit que de l'eau commence à couler du temple, côté est. Et puis, miraculeusement, ça grossit, il en a d'abord jusqu'aux chevilles, et puis après ça, finalement, il est obligé de nager, c'est un fleuve immense qui se déverse et qui régénère toute la mer morte. Des fleuves d'eau vive, oui, du jaillissant du temple, et Jésus est le temple. Là, la prophétie le disait. Et sans doute, cette prophétie est à mettre en lien avec celle de Joël 4, qui parle d'une source qui jaillit de la maison de l'Éternel, et aussi les deux passages que j'ai lus de Zacharie, et il y en a encore un autre au chapitre 14, où il est question d'une source pour le péché et l'impureté qui jaillira à Jérusalem. Qu'il y ait une source pour le péché, une source spirituelle, est présenté comme un fleuve, devenant un fleuve, dans Ézéchiel, voilà, plusieurs passages nous le disent. Et donc on rend compte de cette référence à l'Écriture, comme dit l'Écriture, des sources, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, si l'on comprend que c'est de Jésus qu'il est question. Deuxième argument, si vous prenez le petit commentaire explicatif que Jean nous donne, quelle est la situation du croyant? Il reçoit l'Esprit. Il n'est pas du tout source à son tour dans le passage. Il parlait ainsi de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, quand il serait glorifié. Donc, la source, c'est le Christ, et le croyant est invité à venir et à boire dans ce passage. Et puis, troisième argument, la Bible aime bien une façon de composer les phrases qu'on appelle chiasme. Un chiasme, ça veut dire une structure en croix. Ça vient du mot « qui », la lettre grecque « qui se dessine comme un X en français. Vous avez une structure symétrique, le premier élément correspond au dernier, et le deuxième élément correspond au troisième. Vous voyez ? C'est une structure en chiasme. Or, si vous lisez avec la ponctuation de la Bible du Semeur, c'est cela que vous obtenez. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il boive, celui qui croit en moi. Vous voyez ? Venir à Jésus, non, c'est correspond à boire, et avoir soif correspond à croire en lui. Nous avons cette structure. Un théologien qui est très, très fameux et qui était issu des assemblées de Grande-Bretagne, F.F. Bruce, ajoute encore une note à cela en disant que si on retraduit en araméen, ça tombe très bien. Bon, là, je ne suis pas capable d'en juger, je n'ai d'ailleurs pas vu quelle est la traduction en araméen que l'on peut reconstituer, mais il ajoutait encore cet argument-là. Pour moi, il n'y a pas d'hésitation, c'est la bonne lecture. Il fallait attendre que le Christ fût glorifié parce que les fleuves d'eau vive jaillissent du Christ, sont le fruit de sa venue et de son œuvre qui est évoquée par le terme de glorification. Cela correspond encore à un autre type de l'Ancien Testament que je mentionne presque pour finir, parce que c'est très beau. Cela me remplit de joie intérieure que de l'évoquer. La fête des tabernacles, des cabanes, commémorait tout spécialement la traversée du désert par le peuple d'Israël au temps de l'Exode et célébrait spécialement le don de l'eau miraculeuse par le ministère de Moïse. L'eau jaillit du rocher. Le rocher frappé. Exode 17. Il y avait tout un rite d'eau qui était accompli d'après les sources juives lors de cette fête des tabernacles. On évoquait ce don de l'eau comme bénédiction de Dieu et on disait, on répétait le cantique d'Ésaïe 12, « Vous puiserez avec joie aux sources du salut. » Mais c'était une commémoration de ce don de l'eau miraculeuse jaillit du rocher. Or ce rocher représentait Dieu. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Et pour que l'eau jaillisse en Exode 17, il a fallu qu'il soit frappé. C'est le rocher frappé qui a fait jaillir ce torrent d'eau vive pour abreuver tout un peuple nombreux. C'est aussi cette figure, la typologie biblique, qui s'accomplit lorsque l'Esprit est donné, Jésus ayant subi, lui qui est notre rocher, ayant subi la punition, ayant reçu les coups de cette punition qui nous était due. Une fois pour toutes, vous savez que Moïse, une deuxième fois, selon le livre des Nombres, chapitre 20, a, selon l'ordre de Dieu, dû donner de l'eau au peuple, une eau jaillie du rocher, et cette deuxième fois, Dieu ne lui avait dit qu'une seule chose, tu parleras au rocher. Mais il était énervé par le peuple, et il a frappé une deuxième fois le rocher. Et il a été sévèrement réprimandé pour cela même. Et il a été interdit de terre promise. Pour cette raison même, Moïse, vous vous rappelez cet épisode, tout cela me semble appartenir à la typologie. Pourquoi ne devait-il pas frapper une deuxième fois? Parce que notre rocher a été frappé une seule fois pour toutes. Et prétendre qu'il y aurait besoin de le refrapper une autre fois, au lieu de simplement de la parole, c'est altérer gravement le message de sa gloire. C'est pour ça que Moïse n'est pas entré lui-même dans la terre promise qu'il a seulement saluée de loin. Le Christ est le rocher qui a été frappé pour nous, de telle sorte que les eaux vives du Saint-Esprit coule pour nous et puisse étancher notre soif. Et alors quand il subissait cette épreuve, qu'il recevait les coups, vous savez qu'il a crié de la croix, « J'ai soif ». Et un philosophe qui a eu sa notoriété, Gustave Thibon, pose cette question dans un de ses livres, « J'ai soif ». Comment la source peut-elle dire « j'ai soif » ? De quoi a-t-elle soif ? Et la réponse que Thibon a frôlée, mais que je pense nous pouvons dénoncer à partir de notre texte de manière encore plus précise, c'est la suivante. La source, comme source, de quoi peut-elle avoir soif ? Elle a soif d'être reconnue comme source ? De servir vraiment comme source, c'est-à-dire qu'elle a soif que l'on vienne à elle pour boire. La source a soif de notre soif. heureux ceux qui ont soif. Des fleuves d'eau vive, de l'eau vive qui procède du Seigneur Jésus, frappé pour nous. Que celui qui a soif de cette façon vienne et qu'il boive. Buvons ensemble à cette source, le Saint-Esprit qui vient du Seigneur Jésus. Amen.